Je voudrais donc dire qu'on est en train, au niveau de l'Église, de lire un livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, sur lequel nous partagerons dimanche prochain. Et ce matin, je voudrais porter quelques réflexions sur une partie de quelques versets de ce livre. Si vous regardez le programme, c'est indiqué cette expression « Mon nom est grand parmi les nations », écrit ici. C'est l'Éternel qui dit cela. Quelle belle affirmation. Il est vrai que nous chantons facilement « Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange », mais quelle est la réalité? Quelle en est la réalité dans ma vie? Quelle en est la réalité dans ma vie? Le peuple d'Israël avait le privilège de connaître l'Éternel, le maître de l'univers. Il avait le privilège d'être son peuple, aimé, choisi, et pourtant, Dieu leur dit, dans la bouche du prophète Malachie, et on va lire ça ensemble, c'est le verset 10 du chapitre 1, voici ce qu'il dit, « Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de vos mains. » Alors là, en lisant ce verset, on peut quelque part se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On sait que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, le peuple aimé, le peuple choisi. Et là, Dieu affirme, je ne prends aucun plaisir en vous, je n'accepte pas les offrandes de vos mains. Alors ce verset, heureusement qu'il est expliqué dans les versets qui suivent. Et ce sont les versets 11 à 14 que nous allons lire maintenant, et essayer de commenter. Donc je vais lire les versets 11 à 14. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et partout on fait brûler de l'encens l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous le déshonorez en déclarant la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites, quel ennui, et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel ? Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui en sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état, car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. Ces versets 11 et 14 à 14 forment une unité qu'il est intéressant d'étudier, et j'ai projeté la structure de ce paragraphe. Tu peux passer. Vas-y, jusqu'à la fin de la diapo. Et vous voyez que c'est une structure qui est imbriquée, ce qu'on appelle une structure en chiasme. Et l'intérêt de discerner ce genre de structure dans un texte biblique, c'est de voir ce qui est au cœur. Et le message du prophète qui est au cœur, c'est ce qui est au milieu de ce qui est le plus décalé à droite. Voilà les offrandes que vous faites, puis-je les accepter de vos mains? C'est la question centrale, la question d'ailleurs qui était énoncée dans le verset 10 que nous avons lu en introduction. Alors de ce texte, nous pouvons dégager deux grands axes. Tout d'abord, le cadre. Et ensuite le cœur, et on va faire ça donc en deux temps, et donc on va voir tout d'abord le cadre de ce que dit le prophète Malachie. Je l'ai intitulé « La mission du peuple de Dieu ». Et je voudrais relire, pour qu'on se familiarise avec ce texte, les versets 11 et 14. « En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations. Partout, on fait brûler de l'encens l'honneur de mon nom. » On présente des offrandes pures, oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Et ça, c'est le verset 11. Et la fin du verset 14 qui reprend. « Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. » Nous sommes ici en présence de ce qu'on peut appeler un présent prophétique. Comment comprendre ces versets? Parce qu'on peut être troublé par l'emploi du présent. On sait qu'à l'époque, c'est uniquement Israël qui est le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, et que les autres peuples ne vénèrent pas le Dieu créateur. Comment comprendre donc ce présent? On sait qu'un jour, toutes les nations viendront et l'adoreront. Apocalypse 15:4, où que tout genou fléchira devant lui et que toute langue rendra gloire à Dieu. Un texte de Romains, mais qui est tiré d'Ésaïe 45:23. Donc ça, c'est ce que Dieu a annoncé, mais nous savons que ce jour-là n'est pas encore arrivé. En fait, le prophète se transporte ici dans un avenir qu'il voit déjà comme présent. C'est ce qu'on appelle le présent prophétique et que l'on retrouve dans différents textes prophétiques. C'est quelque part, pour lui, une manière d'affirmer que ce que Dieu a promis, il va le réaliser avec certitude, bien que ce ne soit pas encore arrivé. Voici pour peut-être la question par rapport à ce présent. Ensuite, ce que je propose de voir, c'est de rappeler, peut-être c'est un rappel par rapport au texte, c'est que Dieu s'est choisi un peuple. Cette réalité que toutes les nations célébreront le Seigneur est ancrée quelque part dans la promesse que Dieu a faite à Abraham quelques siècles auparavant. Voici ce qui est écrit en Genèse 22:18, promesse faite de Dieu à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » Promesse qu'il a rappelée à son fils Isaac, « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai toutes ces terres à ta descendance, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » Genèse 26, verset 4. Plus tard, il y a eu donc Isaac, il y a aussi Jacob, les enfants de Jacob, il y a eu toute la période en Égypte, et ensuite, Dieu a fait sortir ce peuple que Dieu s'était choisi, Israël. Voici ce qu'il est dit en Deutéronome 14, 2. « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Et c'est ce peuple-là qui était porteur de la promesse de Dieu, que les nations de la terre seront bénies au travers de ce peuple. Porteur de la promesse, il devait également jouer auprès des nations un rôle de sacrificateur auprès des nations afin de montrer Dieu aux autres nations. Et ça, c'est parfois peut-être un rôle qu'on oublie parce qu'on pense que la descendance, c'est Jésus à la fin qui va sauver, mais toute la réalité de cette relation entre Dieu et son peuple devait amener les autres peuples à croire en Dieu. Donc Dieu s'est choisi un peuple, il est important de se rappeler cela. Et ensuite, le troisième sous-point, c'est que nous sommes aussi, aujourd'hui, un peuple de sacrificateurs. Le texte de Malachie s'adresse à des sacrificateurs, donc des gens qui sont engagés dans le service au temple. Mais aujourd'hui, nous sommes nous aussi un peuple de sacrificateurs, et je reviens sur ce point. Ce salut promis, déjà au travers d'Abraham, Dieu l'a mis en œuvre un jour au travers de Jésus-Christ. Il ne l'a pas fait non pas dans sa vie, non pas dans ses souffrances, mais dans sa mort. Car c'est Jésus qui s'est donné lui-même, qui a donné sa vie pour porter sur lui le jugement qui nous était destiné, afin que nous recevions le pardon de nos fautes et que nous puissions entrer dans une vie nouvelle par la foi. Ce salut, Dieu l'offre aux hommes et aux femmes de toutes les nations. Et en acceptant ce salut, Dieu fait de nous de ses enfants, Dieu fait de nous des frères et sœurs, Dieu fait de nous des pierres vivantes. Dieu fait de nous un édifice dont le fondement est Jésus lui-même. Et voici ce que dit l'apôtre Pierre par rapport à cette image du bâtiment. Vous-même, en tant que pierre vivante, il nous invite à nous laisser édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et on retrouve cette notion du fait que nous sommes aussi considérés comme un groupe de prêtres de la part de Dieu aux yeux du monde, afin que nous offrions nous-mêmes un sacrifice spirituel que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Nous entrons donc également, en devenant disciples de Jésus-Christ, nous entrons dans la mission de Dieu pour le monde, qui est de le montrer, de présenter le salut qu'il offre à chacun. Voilà pour cette première partie, de rappeler la mission du peuple de Dieu. Ça, c'est le cadre. Si le cadre de ce passage, c'est donc le rappel de la grandeur de Dieu, la responsabilité du peuple de Dieu auprès des nations, on voit que le cœur du propos de Malachie est donc les versets 12, 13 et 14, celui des offrandes faites par le peuple d'Israël à l'Éternel. Et je vais relire ces versets. « Mais vous le déshonorez en déclarant « La table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. » Vous dites « Quel ennui, vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre en sacrifice au Seigneur une bête en mauvais état, car je suis un grand roi. On voit qu'ici, au cœur du problème, c'était les sacrifices effectués. C'était le choix de l'animal sacrifié. Alors on va aussi faire un petit rappel historique sur le choix de l'animal sacrifié. Dieu a donné à son peuple des règles de bien vivre ensemble, des règles aussi concernant la manière de s'approcher de lui. Pourquoi faut-il que l'homme sacrifie un animal pour s'approcher de Dieu ? Parce que l'animal constitue un substitut. Et depuis la chute, depuis la Genèse, chapitre 3, l'homme est pécheur. L'homme est coupé de Dieu par son péché, mais il peut néanmoins s'approcher de Dieu en reconnaissant son péché. Et la nécessité d'une mort à cause de son péché, également, il doit reconnaître la nécessité d'une mort à cause de son péché. Et on voit ça déjà dans les sacrifices qui ont été offerts dès la Genèse, en commençant par celui d'Abel, et ensuite, tout au long de la Genèse, on voit que les hommes de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, offrent régulièrement des sacrifices d'animaux pour exprimer leur foi en Dieu. On le voit également à la sortie d'Égypte. C'est le sacrifice d'un agneau qui a permis d'échapper au jugement de Dieu sur les premiers-nés. Le texte nous dit « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. » Et puis ensuite, on a dans le livre du Lévitique l'ensemble des instructions qui sont données par David à Moïse. Et on va juste en relire quelques-unes. Lévitique chapitre 22, je vais lire les versets 17 à 22. « L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et ses fils ainsi qu'à tous les Israélites. Si un Israélite ou un étranger en Israël offre un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, il prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit acceptée. Vous n'en offrirez aucun qui ait un défaut, car elle ne serait pas acceptée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du petit bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit acceptée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'offrirez pas une victime qui soit aveugle, estropiée, mutilée, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel. » Voilà, Dieu a donné des consignes bien précises à son peuple. Les sacrifices d'animaux dans l'Ancienne Alliance étaient un signe de la bonté de Dieu, parce que qui pourrait subsister face à Dieu ? Et quelque part, ce qu'il avait mis en place en système de sacrifice d'animaux, c'était une anticipation de ce que Jésus allait accomplir sur la croix pour ces hommes-là, et pour nous aussi. Et donc, par anticipation, Dieu recevait favorablement ceux et celles qui s'approchaient de lui en offrant un sacrifice pour le pardon des péchés. La seule condition, c'était qu'il respecte ses instructions. Ce devait être un mâle et un mâle sans défaut. Je vais citer le commentaire de Don Carson que j'ai lu. Ce que dénonce Malachie, c'est que dans leur pratique religieuse, les gens s'acquittent des rites, mais traitent Dieu avec un manque de respect évident, ce qui se voit au moins de deux manières. La loi indiquait que celui qui offrait un sacrifice devait apporter un agneau sans défaut, pas un animal faible ou infirme. Or, les Juifs présentaient les pires animaux de leur troupeau, des bêtes qu'ils n'auraient même pas envisagé d'offrir en cadeau à un monarque terrestre. Et par-dessus tout, en parole, comme en acte, le peuple adore le Dieu Tout-Puissant, comme si cela était une obligation pesante dont il faut s'acquitter, plutôt qu'un bonheur ou un service joyeux à accomplir. Quelle fatigue, soupirait-il. Dieu avait donc donné des instructions concernant le choix de l'animal sacrifié. Je voudrais qu'on réfléchisse rapidement sur la portée du sacrifice, en particulier de celui de Jésus. Parce que, au-delà de désobéir aux instructions de Dieu, pourquoi le fait de ne pas respecter les consignes données par Dieu était si grave? Comme je l'ai dit, ces sacrifices étaient une représentation, une anticipation de ce que Jésus allait accomplir sur la croix plus tard. Et ne pas respecter les règles concernant les sacrifices qu'ils étaient en train de faire, c'est directement porter atteinte au sacrifice de Jésus qui allait être accompli bien plus tard. C'est donc non seulement un affront pour Dieu, parce que désobéir à Dieu c'est un affront pour Dieu, mais cela montre que l'homme à la fois ne prenait pas la mesure de la gravité du péché, et c'est aussi un affront par rapport à l'œuvre de salut par laquelle l'homme pouvait continuer de s'approcher de Dieu. Il faut vraiment toujours garder à l'esprit que ce sacrifice est là comme un signe de ce qui allait se passer plus tard. Et le fait de respecter ce sacrifice, les règles, c'était important pour que aussi on soit au bénéfice de ce que Jésus allait accomplir plus tard. Jésus, fils unique de Dieu, lui aussi était sans défaut. Et c'est lui qui s'est offert en sacrifice pour nous, afin que nous soyons sauvés de la perdition éternelle. Comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il est important de ne pas négliger, de ne pas bafouer ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus à sacrifier d'animal. C'est vrai que c'était peut-être un peu pénible, parce que Jésus a accompli parfaitement la justice de Dieu en mourant pour nous sur la croix. C'est vrai que le temple n'est plus le seul endroit où on peut rencontrer Dieu, et c'est pas non plus plus mal. Mais ça peut nous amener, hélas, à perdre le sens de ce que Jésus a accompli pour nous. C'est vrai que Jésus a dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais soyons attentifs au sens, à la portée du sacrifice de Jésus. Là, je voudrais lire un autre commentaire de Matthew Henry. Il est évident que les Israélites ne comprenaient pas la signification des sacrifices comme annonçant la venue de l'agneau sans défaut de Dieu. Ils lésinaient sur les dépenses qu'ils pensaient inutiles parce qu'elles ne leur rapportaient aucun profit. Si nous adorons Dieu de façon ignorante et sans compréhension, nous apportons la bête aveugle pour sacrifice. Si nous le faisons de façon négligente, si nous sommes froids ou inactifs et morts, nous offrons la bête malade. Si nous nous reposons sur l'exercice physique du sacrifice en n'en faisant pas un sacrifice du cœur, alors nous offrons la bête boiteuse. Et si nous laissons des pensées vaines et des distractions se loger dans notre esprit, nous offrons ce qui est dérobé. Et on va revenir tout à l'heure sur ces différents types de bêtes que l'on pourrait offrir. Parce que ça nous amène à nous poser la question, comment nous, on s'approche aujourd'hui de Dieu? C'est vrai, Dieu nous a aimés. Dieu nous a ouvert la porte au travers de la croix de Christ. Dieu nous a accordé un plein pardon en Jésus-Christ. comment nous approchons-nous de Dieu dans notre quotidien. L'apôtre Paul nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc il n'est plus question d'apporter des animaux en sacrifice, mais il est question de nous apporter nous-mêmes devant Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Je voudrais qu'on relise, si vous permettez, le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Et que nous nous laissions interpeller par ce texte. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce que Dieu nous a accordée. Et si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartienne la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. On s'arrête trop souvent à la fin du verset 2. Mais la suite du texte, c'est ça, offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et je vous invite à méditer ces versets à la maison. Alors, pour conclure, que puis-je faire pour que le nom de Dieu soit grand parmi les nations ? Il l'a annoncé, il nous a intégrés dans sa mission, que puis-je faire ? La première chose, c'est qu'il faut déjà qu'il soit grand dans ma propre vie. Nous sommes invités à refléter l'attitude et le caractère de Dieu pour qu'il soit honoré et qu'il soit vu par nos proches, notre famille, nos voisins, nos collègues. Mais dans ce qu'il voit de notre vie, que laissons-nous croire aux autres? Nous sommes censés représenter le Seigneur. Quel reflet de lui les autres ont-ils en nous? Et puis la deuxième chose qu'on peut voir de ce texte, c'est la deuxième partie que j'ai développée, que nous sommes invités à examiner la manière dont nous nous offrons au Seigneur. Dieu a le droit au meilleur. Lui apportons-nous une bête aveugle, une bête malade, une bête boiteuse ou une bête dérobée. Si nous avons l'apparence de la piété en reniant ce qui en fait la force, comme le dit Paul à Timothée, nous apportons à Dieu un sacrifice aveugle. Si nous faisons preuve de tolérance vis-à-vis du péché dans notre vie, nous lui apportons un sacrifice malade. Et nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu prenne plaisir en nous. Si nous refusons de nous mettre à son service avec les dons qu'il nous a donnés, nous lui apportons un sacrifice boiteux. Si le service de Dieu n'est pas pour nous plus important que tout, nous apportons un sacrifice dérobé. Que nous puissions, comme nous y invite le verset de Malachie, chapitre 2, verset 1, de prendre à cœur de donner gloire au nom de l'Éternel. Prendre à cœur, c'est ce qui doit être au plus profond de notre cœur, de donner gloire au nom de l'Éternel, pour que son nom puisse être grand parmi les nations. Je vous invite à la prière.